vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Refus du travail dans l'autonomie italienne. Alors, l'autonomie italienne, c'est un mouvement qui a balayé l'Italie à peu près de l'année 1968 jusqu'à 1978-1980, et... la répression du mouvement suite à l'assassinat de Moro et puis la défaite finale de la grève de Fiat en 1980. C'est un mouvement qui a été extrêmement puissant, beaucoup plus important d'une certaine manière dans le temps que le mai 68 français. On a parlé de mai rampant italien. Il y a eu plusieurs scansions où à chaque fois c'était des grèves très importantes, des occupations d'usines gigantesques comme l'usine de Mirafiori, de la Fiat à Turin, qui s'est traduit par des manifestations très importantes, par la commune de Bologne en 1977, dont nous fêtons les 40 ans, où pendant deux jours, la police s'est fait virer de la ville par les autonomes italiens, qui ont finalement été... et Bologne a finalement été reprise par les chars d'assaut. Donc c'est un moment très très important de l'histoire des luttes contre le capitalisme, et c'est un moment qui peut nous inspirer. En tout cas, c'est ce qu'on pense dans cette émission. Alors ici, on va parler simplement d'un aspect de l'autonomie italienne, qui est le refus du travail, à la fois dans la théorie et en acte, dans les pratiques. Et pour ce qui est des événements en général, reportera à l'ouvrage de Alessandro Stella, des années de rêve et de plomb, dont on trouvera une note de lecture sur le site. On trouvera également Autonomie, Italie, les années 70 de Marcello Tari, même si les deux ouvrages, hein, ceux de Stella et de Tari, posent certains problèmes. Alors, aujourd'hui, pour parler du refus du travail dans l'autonomie italienne, nous recevons Oreste Scalzone, qui a été un important protagoniste de l'autonomie italienne, notamment au sein du groupe Potere Operaio. Et pour ce qui est de son récit un peu des événements, on consultera utilement Oreste contre la montre, qui est son récit un peu des événements année par année, de 1960 jusqu'à 1978. Sur le site Lundi Matin. Et pour approfondir et compléter ce qu'il va dire aujourd'hui, on lira notamment de lui deux textes, Politique ou Révolution et Écologisme et Autonomie, avec Lucia Martini, dans un ouvrage collectif dirigé par Henri Lefebvre et publié en 1990 aux éditions Sileps Periscope. Et on lira aussi, écrit cette fois-ci avec un de ses camarades, « La Révolution et l'État », publié en 2000 aux éditions d'Agorno.
Avec Paolo Persichetti.
Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord de la critique théorique du travail qui est au fondement et aux origines, d'une certaine façon, de l'autonomie italienne, qui la précède déjà dans le temps, et qui, d'une certaine façon, ce qui en fait son intérêt, rompt un peu avec l'apologie d'une grande partie des intellectuels marxistes du travail.
Étant donné que j'ai mes faux, tout le temps probablement sans réussir, d'être bref, rapide et concis, et que je suis pris tout le temps par les sentiments du contraire, que c'est pas assez, qu'il faudrait beaucoup plus de ces digressions qu'on me rapproche, beaucoup plus de notes, pas musicales, mais de bas de page ou d'annexes, etc. Et que c'est toujours, c'est comme si j'étais hanté par un scrupule des hostilités, etc. En me rendant compte que ici, on est dans le cadre d'une émission, et que donc il faut essayer aussi non pas de parler dans une prétendue langue commune, finie pour être de la vulgarisation fade, mais quand même avoir une espèce de préoccupation de recevabilité. Toute une série de références peuvent résulter cryptiques. J'essayerai d'être simple quelque part, mais la simplicité, c'est un résultat. Hein. Donc, je voudrais commencer par, justement, par la perception qui était très répandue et très majoritaire, même dans les mouvements ouvriers, dans les surtout les vieilles générations d'ouvriers, des prolos, mais après renouvelées par transmission idéologique, je dis idéologique, pas théorique, etc. Donc avec une signification négative du mot idéologie, au sens de Marx, pas au sens de la récupération en positif de ces termes qui avaient été faits par Lénine, l'idéologie prolétarienne, etc., repris un peu par, même par la grande majorité à un certain moment des gauchistes, je voudrais essayer de rappeler pour démarrer la perplexité qu'un type comme moi, au début, les antennes comme ça, avait par rapport à des expressions type lutte contre le travail et refus du travail. C'est un élément de témoignage réfléchi. Je ne vais pas glisser dans de l'autobiographisme, mais étant, disons, à l'époque, un jeune communiste d'une ville ouvrière comme la mienne, qui s'était plongé dans la jeunesse communiste, personne n'est parfait, et à ce moment-là, les couvents passaient ça. Quand j'avais à peine 13 ans et après des grandes émeutes qui avaient traversé l'Italie l'année 60 et ayant été avant donc jeune communiste, toujours un peu impatient comme on le disait, et puis en ayant rapidement comme un peu tout le monde et en étant rentré en route de collision, et étant puis dans les années, les premières années de la fac, etc., ou aussi en, déjà à la fin du lycée, un espèce d'irrégulier, des communistes indépendants, chiens sans collier, comme on disait, j'étais très mouvementiste dans les luttes à Rome, etc., mais pas cassé dans un groupe spécifique, un peu transversal. Je vais dire que quand, tardivement, après de retour de France où j'étais venu en mai 68 avec d'autres, et par la transmission faite par mon camarade, qui reste toujours un frère, Franco Piperno, des articles de Mario Tronchi constituaient les éditoriaux de la revue Classe Operaia, Classe Ouvrière, entre 62 et 64, qui suivait la série de l'autre revue, Quaderni Rossi, Cahiers Rouge, avec des figures comme des théoriciens, mais aussi des militants, comme Raniero Panzieri, et puis Mario Tronchi, Romano Arcuati, Toni Negri, Gaspare De Caro e beaucoup d'autres. Quand j'avais flashé sur l'éditorial, notamment au début, du numéro 1 de la revue de Mario Tronchi, le recueil après c'est dans Operaio Capitale, Ouvrier Capitale, qui vient d'être réédité récemment en France, Eh bien, le titre « Lutte contre le travail » m'avait fait un petit quai. Et encore plus après, la formule, si vous voulez, plus provocatrice, notamment attribuée à Tony Negri, « Refus du travail ». Et j'avais une espèce de réaction perplexe. Dans ma tête, ça revenait aussi toute une série d'éléments d'idéologie du travail d'un vieux ouvrier professionnel comme mon grand-père paternel, de beaucoup de militants que j'avais connus au port des aciéries de terre. Qu'est-ce que c'est? Cette image comme si c'était une espèce d'éloge de la paresse, mais pas au sens de brillant pamphlet de la Fargue. Mais comme l'idée d'une utopie, on peut se nourrir par la manne, je ne sais pas par quoi. Et donc, tu vois, j'ai un peu connu ce type d'interrogation. Et donc, au lieu de me lancer dans un tentative qui serait toujours insatisfaisant, de faire un raccourci théorique, chronologique ou pas, je vais ici fournir dans cette première partie les arguments que après un agitateur dans nos journaux, qui était après 69 dans le sillage de la mouvance opéraïste, la classe avant et puis potere operaio, je faisais souvent des pages un peu de tentatives de traduction compréhensible pour ce qu'on pouvait considérer un sens, je dis pas commun, mais majoritaire chez ce que je me permets d'appeler la camaraderie, ou pour être auto-ironique, les révolutionnaires moyennes, voilà, de la rue. Alors, j'ai utilisé ce type d'argument. D'abord, il y a une question terminologique. Et quand même, les mots sont importants. Donc, on va voir, on peut chercher d'abord chez Marx, mais pas seulement. Et bien, par exemple, en allemand, il y a deux mots, Arbeit et freie Aktivität. Dans le grec ancien, il y a deux mots, poiesis et praxis. Donc, quand vous dites que le travail, c'est le propre de l'essence humaine, ça adressé aux syndicalistes, aux socialistes, aux communistes, aux travaillistes de tout poil, et que vous utilisez les mots valeur du travail, déjà, d'une façon truquée, parce que si on le prend dans sa formulation, chez Marx, qui reprend ça, si c'est pour ça, de Ricardo, des classiques, valeur travail, valeur du travail, ça signifie valeur d'échange de la marchandise, force de travail, point. Donc, vous avez à la disposition d'autres mots. Donc, si vous acharnez à vouloir utiliser le mot travail, après qu'on vous a dit que ça vient de tripalium, instrument de torture, que c'est le même mot qui désigne, fait allusion à la mort, le travail de deuil, ou le travail qui précède l'accouchement, donc c'est quand même un mot qui désigne une souffrance. Et si vous voulez utiliser ça, quand on vous dit, il y a aussi d'autres mots. On pourrait parler d'activité, non? Comme propre de la dite espèce spécialisée dans la parole et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est pas si anodin cet acharnement chevronné à vouloir parler de travail. Première, puce à l'oreille. Deuxième, de toute évidence, le capitalisme, c'est une société du travail. Et c'est pas, évidemment, on peut faire toutes les subtilités qu'on veut, mais disons, ce qui va sous le nom d'extraction de la plus-value. Dans un point de vue classique, on peut pas tirer de la plus-value par un ordinateur ou par un mulet. Mais au fond, pourquoi? Parce que les propres, je pense, de l'espèce humaine, c'est bien le plus précieux qui se consomme, c'est le temps de vie. Donc, pour aller vite, donc c'est les propres travail, il peut y avoir eu travail esclave, il y a eu tellement de formes, puis il y a le travail salarié. Mais travail désigne toujours dans ses différentes formes, même dans les prochaines néo-esclavagistes qu'on va voir, mais ça c'est un autre discours, c'est une activité sous commandement, une activité dépossédée de son résultat, on dit, Marx dit, le travail vivant, et que après, il trépasse un travail cristallisé, mort, pour avoir une deuxième, entre guillemets, vie de marchandise. Mais, une fois qu'il est mortifié, mortiféré, mort, il s'érige comme un cauchemar contre les travailleurs vivants. Donc, je vais dire, mais même si on voit la mystique, l'idéologie, les monuments, tu les trouves spécialement poussés dans les fascismes ou dans les socialismes capitalistes d'État, les socialismes réels staliniens, dans les cartes de la CGT de début, l'apologie, l'idéologie du travail, et même pour toute forme de libéralisme, de capitalisme, le travail est central. C'est leur nécessité vitale tirée du travail, et maintenant ils ont beaucoup de choses à faire là, la critique de la valeur et de la fin du travail, ils essayent de les soutirer partout, je sais pas. Par exemple, quand on discutait, ça tu vois les digressions, la constitution italienne, il y avait le PC avec toute son idéologie dans l'Assemblée constituante qui voulait mettre l'Italie en République démocratique, bon d'accord, des travailleurs. Et après la médiation c'était fondée sur les travailleurs, même pas des travailleurs, non, même des travailleurs, tu comprends, mais fondée sur les travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a discuté là-dessus? La moindre des choses que vous devriez admettre, je parle comme à des hypothétiques agitateurs syndicaux devant Zanusine ou Coco qui parlent, c'est que alors là, il y aurait un point dans lequel vraiment on est totalement homologique et on partage les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes modes de vie, de pensée, de forme de vie, etc. Troisième argument, oh, tu sais, j'ai pensé, je m'illusionnais que des arguments comme ça faisaient mouche rapidement. C'est, malheureusement, là j'ai dû déchanter. Mais il y a un autre truc. J'avais lu à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, un article d'un autre journal, Potere Operaio, donc c'était moi que je m'en occupais, mais envoyé par Ferruccio Gambino, qui est un camarade. Et c'était un texte sur le, guillemets, vol, ou le fait de subtiliser l'information ouvrière. Et là, il décrivait combien il y a une espèce de course-poursuite. Combien de micro-gestes de refus du travail pour respirer, pour ouvrir les ports de l'usine. Ils sont inventés dans une espèce de truc microlithique par les travailleurs. Mais peut-être ça s'est passé aussi pour les esclaves qui montaient les pierres pour construire les pyramides ou Thèbes de sept portes, comme l'ai dit. C'est-à-dire, combien il y a microphysique interne au travail pour essayer de respirer. Et, bien sûr, ça a donné lieu à des procédés qui détournent la norme, à une intelligence qui intervient sur il macchinario, comme on dit, le capital fils, la machinerie pour faire des variations, des trucs, pour permettre, bien sûr que même dans le taylorisme, on te permettait d'aller pisser, non? Il y avait toujours le battipaglia derrière qui rentrait au poste, mais le temps que tu allais pisser, tu revenais. Et c'est vrai que tous ces microphysiques, des microgestes, de quoi? Du refus du travail, c'était tout de suite observé, même à l'époque qu'il y avait des procédés beaucoup plus rudimentaires, par le type qui a les chronomètres dans les mains, et qui il récupère cette invention ouvrière. Donc le refus de travail, c'est productif, tu vois, et pour la transformer, pour de nouveau alors réaccélérer la cadence, ré-saturer le temps, et transformer donc même les refus du travail, ce type de refus de travail, en élément promoteur d'une augmentation de la productivité. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des points d'objectif et connivence, mais on ne peut pas se soustraire à la force de gravité en se tirant par les cheveux comme le personnage du baron de Munchausen. Donc, troisième élément, pour dire, ou peut-être c'était un peu une préoccupation de légitimer les discours, mais la lutte contre le travail, les refus du travail, d'abord c'est des gens qui connaissent le travail, qui le vit et qui le souffrent. Et on pourrait dire, il y a des pages de Marx, mais il y a aussi ce personnage que je trouve une grande femme, qui est Simone Weil. Parce qu'on peut considérer qu'elle était mystique, que de Camus à Atlan à Paul VI, il était fasciné et amoureux d'elle. Mais on connaît beaucoup de choses intéressantes de cette femme. Mais d'avoir voulu aller à l'usine, en minant sa santé, et en crevant à 39 ans de tuberculose, après qu'il avait été avec les Durutiens, les anarchistes en Espagne, qui avaient même critiqué certains aspects. Mais elle avait voulu aller, vous dites, pour une espèce de moralisme sacrificiel, mystique. Peut-être, mais le résultat, c'est que ces pages sur la condition ouvrière, matérielle, psychomatérielle, la condition ouvrière, on peut aller voir certains morceaux de La classe ouvrière va au paradis, ou Jean-Marie à volonté extraordinaire, mais on peut les décrire pour l'avoir entendu. Mais les pages qu'elles sortent sont, je dirais, définitives. Tout le reste sur la démocratie, les trucs, c'est du pipeau spécifique. Donc, voilà, ça pour dire certains arguments de comme un petit soldat divulgateur, je préfère l'agitation au terme propagande, essayer d'appliquer à l'ensemble conceptuel et théorique que j'avais trouvé, qui me venait aussi de cette expérience opériste. On n'était pas les seuls, hein. En même temps, bien sûr que des ambivalences il y a partout. Par exemple, je ne sais pas maintenant à quelle époque remonte toute une série de tests, par exemple, Bob Black ne travaillait jamais. Alors, je m'arrêterai là pour dire ce qui, d'après moi, c'était les présupposés élémentaires. Après, on verra toutes les pratiques que l'autonomie a déployées pour expliquer ces sources théoriques en ce qui nous concerne, de la critique du travail, pas seulement dire oui, du travail salarié, alors avec toutes les idéologies qui disaient il y a un travail différent, il y a un travail. Bon, le travail, si on peut penser à des formes différentes de communautés d'interaction, de liberté, etc., humaine, je ne vois pas si anodin, j'utilise pas les mots innocents parce que ça rentre, évoque d'autres choses, la dialectique innocence culpabilité, mais c'est pas si anodin s'acharner à vouloir défendre même ces mots, gronde du sang et de la sueur, comme travail.
Oui, et d'ailleurs, dans le mouvement de l'autonomie, il y avait, on retrouve dans le livre de Autonomie de Marcello Tari des déclarations assez fortes quand même contre le travail, qui illustrent ce refus du travail dont on va après une pause musicale parler justement des pratiques qui étaient déployées. Mais l'Assemblée autonome de Porto Marghera en 1977 avait notamment fait cette déclaration. Le travail n'est pas une façon de vivre, mais l'obligation de se vendre pour vivre. Et c'est en luttant contre le travail, contre cette vente forcée d'eux-mêmes, les ouvriers, qu'ils se heurtent aux règles de la société. Et c'est en luttant pour travailler moins, pour ne plus se laisser empoisonner par le travail, qu'ils luttent aussi contre la nocivité. Car il est nocif de se lever tous les matins pour aller travailler. Il est nocif de suivre les rythmes, les modes de la production. Il est nocif de faire les roulements. Il est nocif de rentrer chez soi avec un travail qui te contraint le lendemain de retourner à l'usine. Et donc là, on voit un petit peu comment est-ce que des jeunes ouvriers italiens pouvaient justement acter d'un refus du travail à partir justement d'une condition de travailleur. Et en fait, finalement, le refus du travail de la part de ces jeunes ouvriers italiens était ce qu'il y avait de plus logique, puisque quand on subit le travail, on est d'autant plus porté plutôt à le critiquer, puisque son étymologie de souffrance là pour le coup se révèle prégnante quoi dans la chair même de ces jeunes ouvriers italiens quoi.
Oui, je me permets une petite note de bas de page, mais comme les comités de Porto Marghera, ça a été toujours pour nous un peu la prunelle de nos yeux, et que donc j'y tiens beaucoup. Togliatti, qui avait été le grand maître d'une social-démocratie réelle, d'un stalinisme réel dans les méthodes, qui utilisait un terrorisme intellectuel pas possible, qui tapait sous les doigts de n'importe qui, une fois il avait écrit une grosse bourde dans des thèses, si on voulait faire les pointilleux. Ah, le capitalisme, cette société où le travail est une marchandise. Alors, on aurait pu lui dire, attention, par rapport au texte sacré, que dans leur version largement lassalisée du marxisme institué par Kautsky, c'est pas le travail qui est une marchandise, c'est la force du travail. Et là, il y a aussi, c'est vrai que c'est une facilité, je le corrigerai si c'était en avant, quand on dit on est obligé de se vendre. En réalité, on vend son temps de vie. On vend sa force de travail, en réalité. Sa force de travail ou sa prestation. C'est comme si, à vrai dire, on se loue, on se donne un leasing plus que se vendre.
Bon, après avoir du coup présenté ce refus du travail théorisé, donc notamment par Mario Tronti, Tony Negri ou par toi-même, on va faire une pause musicale et ensuite on arrivera sur les pratiques du refus du travail dans l'autonomie italienne.
La classe operaia accompagna l'attacco. Stato e padroni non la possono fermar. Niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare.
Buon lavoro salariato, unitami tutti gli operai. Il comunismo è nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione.
Nessuno, tutti o tutto o niente, è solo insieme che dobbiamo lottare. O i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare.
Compagni avanti per il partito, contro lo Stato la carnata sarà.
Operaia verrà,
Stato e padroni, fate attenzione.
déjà, j'ai signalé les pratiques, celles qui étaient alors là, si spontanées et même individuelles depuis toujours, quand je disais la résistance physique et humaine de survival contre le travail qui caractérise tout prolo et ouvrier qui n'est pas vraiment une espèce de esclave dans la tête ou de troupeau de... mais après, donc j'ai déjà parlé, je reviens pas là-dessus, sur la lutte plus de sous, moins de travail. Mais cette lutte, déjà à niveau d'usine, la Fiat, ça a été magnifique de ce point de vue, c'était pratiquer une forme qui tendait au travail zéro. Nos camarades de New York faisaient un journal, Lavoro Zero, Zero Work, là, c'était vraiment, à un certain moment, on utilisait tout. Les chefs et les contre-maîtres ne mettaient pas la tête dehors, parce que c'était très facile de passer du sabotage microphysique au fait de les faire courir à coups de boulons, morceaux de fer, etc. L'histoire, par exemple, qui peut sembler un peu une volagerie, nos camarades de Turin avaient fait un autocollant qui avait eu une fortune énorme, Fête l'amour le lundi. C'était l'absentéisme à niveau vertigineux, le taux d'absence à la Fiat, à l'Alfa Romeo, dans les grandes usines était faramineux. Le fait d'utiliser une espèce d'inflation des permissions syndicales, tu sais, le syndicaliste, il a, c'est considéré un détaché, il a des permissions de s'absenter, c'était déjà en conquête dans les années 50, pour aller faire son boulot de syndicaliste. Alors tout le monde disait, ça c'est pour tout le monde, vous pouvez pas être une corporation de merde, de bureaucrate, non, donc ça, moi je suis délégué, l'autre, non, moi je suis même pas délégué, mais je vais voir qu'est-ce que vous me dites si je me promène à l'autre bout pour organiser une grève. Vraiment, grosso modo, la productivité et la production s'étaient réduites. Bon, on peut aussi, parce que ça fait plaisir quand même, on pourrait les garder comme livre de chevet, aller lire les récits du côté patronal. Il y a un livre de Cesare Romiti qui avait été là pendant de longues années, Fiat, disons le numéro 2 après Gianni Agnelli. Quand il raconte, peut-être il a fabule, che après la grande occupation de la Fiat de 74, dans l'usine, pour ainsi dire. Alors lui, c'est Cesare Romiti, le numéro 2 de la Fiat, il raconte, toujours pour avoir la partie belle, che un jour, comme dans les contes de fées, il s'était un peu déguisé, il s'était fait porter par les chauffeurs. Il avait fait les tours de la Fiat, il avait vu le climat, il était rentré dans l'édifice de la direction et il avait dit au frère Agnelli, écoutez, ici c'est foutu, hein. Il faut délocaliser, il faut envoyer à Cordoba, à la Fiat de Cordoba, même s'il y avait eu la séquestration d'un dirigeant par l'air, par Argentin, l'Argentine s'est parée, il faut aller à mettre la sellerie a Pologne, il faut faire des trucs en Union Soviétique a Togliatti Grad, ici c'est mieux si on délocalise la production. Lui, il s'attribue cette vision et qu'on fait une conversion vers les assurances, les financières, les trucs, ce qui avait caractérisé Fiat. Donc, si tu lis le récit, n'en parlons pas. Et donc, alors, l'assentéisme, la situation de désordre permanent à l'intérieur des usines. Et puis, à l'extérieur, les territoires. Donc, comme la question du logement, c'était commencé en 69 à Turin, tu sais, même le diable fait les poêles, comment dire, les casseroles, mais pas les couvercles. Tu imagines que, avec une bêtise, je l'ai dit dans Oreste contre la montre, c'était encore 69, les modèles c'était encore le binôme taylorisme dans la production, fordisme dans la régulation sociale. Ici en France, on faisait arriver les immigrés, il y avait, disons, soi-disant le plein emploi. Sauf que la différence, un peu, une des différences dont on parle jamais tellement, c'est une évidence un peu objective, c'est que la figure centrale de cette composition des classes de l'époque, c'est que nous on appelait l'ouvrier masse, des années 60, je dis, et les OS, pour dire une typologie, non, en Angleterre c'était des Pakistanais, à Volkswagen c'était des Turcs ou des Kurdes, en France c'était de beaucoup de nationalités, mais de plus en plus des Algériens. Donc c'était des immigrés qui arrivaient, qui étaient tout dans les foyers, qui arrivaient tout seuls, qui devaient renvoyer beaucoup l'argent à la famille, qui étaient sous le chantage. Et tandis qu'en Italie, c'était des Italiens avec leur carte d'identité qui venaient du sud, un énorme transfert de forces de travail interne. Donc, le printemps 69, avec déjà les bordels, les débrayages, etc., la Fiat embauche 15 000 entre ouvriers et employés. Ça signifie 60 000 personnes qui débarquent à Turin, l'explosion de la question du logement, le syndicat qui essaye de contenir. Nous, à l'époque, c'était pas encore potere operaio, c'était la classe, mais c'était, que on a beaucoup tiré la chose, né une espèce de, on a parlé d'insurrection de Corso Traiano, de Michelino, trois jours, avec les camions qui transportent les produits finis en Saint-Dié, des barricades, des trucs, ça se répétait à Milan, au milieu de l'automne chaude. Donc, après, surtout l'année 70, ça a été l'année des occupations, je ne veux pas dire généralisées, mais des occupations d'habitation à Rome, à Milan, dans toutes les grandes villes, même les petites. Donc on paye rien, la casa si prende, l'affitto non si paga, l'habitation on la prend, c'était mieux que dire est un droit. Non, on la prend, on va pas la payer. Et puis, c'était passé à la, guillemets, réappropriation directe de la richesse sociale. Donc, ceux qui pouvaient revenir à des formes d'action, des rayottes permanents, au grand supermarché, avec après toutes les évolutions que tout ça a eu. Et puis, il y avait l'élargissement par les mouvements des autoréductions. Parce que ça, c'était pas en alternative, il n'y avait pas une espèce de guerre idéologique, non, nous on squatte, vous êtes réformiste, parce que c'était des formes qu'on trouvait dans une pulpe vivante des mouvements, donc on pouvait dire il y a un paquet des bâtiments, des cités qui sont toutes occupées, il y a des formes de résistance quand la police arrive, et puis il peut y avoir même des formes dans lesquelles on décrète qu'on paye les 10%, et c'était pas du réformisme, tu comprends, ou du syndicalisme modéré. Tout ça, c'est, comme tu le disais très bien, une forme indirecte, l'impression passée de la pression salariale directe à la pression sur les salaires différés, les salaires indirects, donc contre sur ces terrains, il y a eu une pulpe de lutte qui a eu évidemment des cycles internes, mais en pouvant utiliser aussi le fait qu'en Italie c'est un pays de 100 villes, donc il y a des cyclicités de lutte, mais quand c'est stompé d'un côté, il régialissait dans une autre ville, ça a été formidable.
Et juste ce que je voulais souligner en même temps t'inciter à approfondir, c'est le fait que Donc d'une part, il y a quand même un refus massif du travail dans les usines. Donc l'absentéisme, effectivement, on en a parlé dans une autre émission avec Bruno Astarian, mais l'absentéisme, effectivement, va grimper jusqu'à 25% au milieu des années 70. Effectivement, c'est la panique du côté du patronat qui, effectivement, pense massivement à délocaliser, à fermer les usines, parce que effectivement, elle n'arrive plus du tout à gérer ce qui est plus du coup des micro-gestes de refus du travail, mais alors là, des espèces de macro-gestes de refus du travail, des occupations, du sabotage massif, des coulages de cadence, de l'absentéisme systématique et tout ça. Et d'autre part, c'est important, je pense, de lier aussi ce qui s'est passé dans l'extérieur des usines et qui était aussi des formes de refus du travail, puisque finalement les autoréductions et les grèves de loyers, c'est aussi des formes de refus du travail, c'est-à-dire c'est refuser de devoir travailler pour des boulots en plus bien merdiques, quoi, dans les usines. Pour avoir le droit, entre guillemets, de se loger ou de se nourrir et tout ça. Est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur la question, bon, l'autoréduction, on voit à peu près, la grève des loyers et la question de l'électricité, comment est-ce que tu pourrais donner peut-être quelques exemples ou approfondir un peu cette question par exemple, est-ce que c'était... les gens qui faisaient une espèce de pseudo-bail et puis après qui disaient on va pas payer et que du coup dès qu'il y avait des tentatives d'expulsion les gens se groupaient et empêchaient l'expulsion, ou est-ce qu'il y avait ça et aussi des formes carrément de squat, c'est-à-dire on demandait pas son avis au propriétaire, on rentrait dans l'appartement et puis s'il y a des tentatives d'expulsion pareil, est-ce que tu pourrais du coup détailler un petit peu tout ça?
Ben, là je pense que il y a eu quelques phase vraiment heureuse dans laquelle l'occupation directe, squat, je pense qu'à l'époque encore le mot squat c'était pas rentré dans l'usage, et donc des familles, évidemment il y a toujours, on va pas dire qu'il n'y a pas de meneurs qui pouvaient être nous ou d'autres camarades, disons des minorités agissant, voilà, pour relayer et tout. Et donc c'était par exemple des bâtiments vides, même des ce qui correspondrait les cases populaires, les HLM, etc., qui étaient vides, qui tardaient à être, qui étaient investis par des familles, disons, on pouvait dire largement d'immigrés. L'immigré, ça s'est trouvé qui était un transfert interne.
C'était, oui, du sud de l'Italie, oui.
Sud, ou aussi des régions, disons, plus pauvres, etc. Mais à l'époque encore, il n'y avait pas de la migrance en Italie significative, non, d'étrangers. Mais, et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais ce qu'on essayait de faire, c'est qu'en même temps, au lieu de tomber dans le fait de mettre contre les habitants qui avaient déjà eu les loyers et tout, ou alors les assignataires, de laisser jouer cette espèce de... J'aime pas trop l'expression « guerre entre les pauvres », mais je dirais ce type de discrétie, de contradiction. On essayait justement de les harmoniser, c'est-à-dire les uns occupés et bon, alors les autres... en prévenant le réflexe qui est humain, hein, que si peut aller loin, que de dire, ben, mais alors moi je suis plus couillon, l'autre ne paye pas, et pourquoi je devrais payer, c'était de dire, ben non, tu ne payes pas, tu fais la grève, on organise la grève, ça dépend du nombre, si c'est 40, 200 familles, etc., on va voir, c'est une force d'action collective. Après, ça pouvait arriver par moment aussi à des trucs d'autoréduction, mais simplement un peu pour garder une forme de façade, en considérant qu'il y a aussi, c'est normal, des considérations, même aussi des réflexes, de relative prudence des pères ou mères de famille, de ne pas se trouver en pôle ou à la rue, quand ils ont des enfants en bas âge et tout, mais disons, ça c'était une tentative d'élargir le front en harmonisant des formes aussi différenciées comme niveau. Je voudrais ajouter une chose que, grâce à tes questions, me vient plus clairement à l'esprit maintenant. Je veux pas. Il faut pas penser que, mais tu ne penses pas que, je dis que ces mouvements pratiques, avec une terminologie un peu française, 19e, on pourrait parler d'une espèce d'état de guerre sociale, disséminée, diffuse, etc. Il n'a pas été un continuum égal à soi-même entre les postes 68 et 69 et jusqu'à la fin des années 70. Par exemple, il y a un espèce d'intéressant paradoxe qui me vient à l'esprit, il faudrait fouiller. Et on parle souvent d'un moment, d'une espèce de stop, d'une espèce de choc, d'une espèce de tournant de passage, qui on place, mais même dans la littérature la plus diffusée, même mainstream, qu'on place au moment de la guerre du Kippour et de ce qui est appelé le choc pétrolier. Non?
73.
Considérons, c'est pas de la magie, c'est le hasard, quelque part, que c'est la même année, par exemple, d'un autre choc aussi dans les consciences qui a été
Pinochet,
les coups d'État en Chili. Donc, on est sorti vraiment l'EPC avec les articles de Berlinguer qui ont commencé à théoriser les compromis historiques et des slogans qui circulaient largement chez nous au sens large, jamais plus sans fusil. Mais je vais dire, les chocs pétrolifères, la crise, c'est à ce moment-là que, quelque part, cette espèce d'allure, bien sûr, difficile, il y avait même des morts faits par la police, il y avait eu Piazza Fontana, il y avait eu, mais disons, un peu triomphal, je dirais. Oui, il y en avait qui parlaient surtout de la contre-révolution qui avançait, mais même si tu prends lotta continua, c'est un peu ambivalent, mais disons, entre 68 et 69, c'était un crescendo. Même lotta continua che traduisse un po' e popularisse in slogan il parlare la rivoluzione culturelle dalle usine in Italia, dalle quartiere, dalle tue. Après, c'est vrai che on peut dire che a 74, 75, il commence le travail de reprise en main, de restructuration, les licenciements. C'est-à-dire, c'est comme si, il n'y a pas un Big Brother centralisé, mais disons, le côté, les partis capitalistes, etc., il s'est posé le problème de reprendre en main cette situation. C'est pas seulement après 78, et puis avec ces symptômes de la rafle judiciaire de 7 avril qui nous a concernés. Là, c'est commencé un retour de bâton de tout point de vue. Loi spéciale, type la loi anti-casseur ici, mais surtout dans les lieux de production, dans les lieux plus que dans les quartiers peut-être. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle la restructuration. Alors là, paradoxalement, l'autonomie, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle tout l'archipel, la nébuleuse de l'autonomie, ce qui était dans la coordination nationale de l'autonomie ouvrière organisée, ou c'est comme nous, comité communiste per il potere operaio, puis comité communiste révolutionnaire, qui n'était pas dans la coordination pour des raisons, mais qui on était vraiment dans cette pan paysage social jusqu'au bout. Alors là, on avait en même temps, tu comprends, d'un côté, des luttes de résistance qui ont beaucoup poussé pour, on peut l'appeler les court-circuits, les raccourcis, de l'action directement illégale et armée. Et donc, justement, le point de vue opéraïste, c'était que quand tu rentres en résistance et en défensive ou en contre-offensive, c'est déjà foutu. Mais, notamment par exemple nous, le comité communiste, on considérait que c'était pas pour ça qu'on pouvait laisser tout ce terrain à une espèce de situation, l'abandonner à ses problèmes locaux. Et donc, là, il y a eu un aspect qui a été vraiment passé à un niveau supérieur. C'était pas seulement une histoire subjective des groupes, les groupes armés, clandestins, non clandestins, etc. C'était aussi quelque chose qui était poussé par les noyaux les plus radicaux dans les luttes, surtout d'ouvriers de ce point de vue. Et en même temps, il y avait les processus qu'on peut appeler de la précarisation, la prolétarisation, donc des émergences d'un sujet qui sera le sujet des 77 et qu'on peut appeler les prolétarisés de la métropole ou avec une formule qui avait sorti Negri, l'ouvrier social. Ou alors, en même temps, il y avait cette espèce de réduit de résistance qui de plus en plus ne pouvait s'exprimer que par une violence directe. Des sabotages et aussi d'attaques à des figures du commandement. Et en même temps, il y avait l'émergence de cette nouvelle composition qui aura dans 77, qui pour l'Italie a été autant important que 68, son épanouissement, même avec les côtés durs et tragiques.
Oui, donc du coup, si je résume... En fait, il y a une tentative, donc il y a une période de 68, 73, 74 où il y a un refus massif du travail dans les usines et
dans les grandes usines.
Dans les grandes usines, Mirafiori et tout ça, Alfa Romeo. Et du coup, ce qui se passe en 74, 75, c'est qu'il y a une tentative de restructuration, c'est-à-dire d'une certaine façon de retour à l'ordre, du travail avec une prolétarisation, une précarisation, une tentative de d'éparpillement de la production, etc., etc., d'un début de délocalisation. Et c'est dans ce nouveau terrain que vont se faire ces années, enfin l'année que va se faire l'année centrale de l'autonomie italienne, qui est 77, et que tu développes bien, notamment dans Orestes contre la montre, qu'on invite. Genre la dernière chose et du coup une espèce de contre-révolution pour le travail qui va finir par réussir malheureusement avec 78 et la répression judiciaire très forte de 78 et puis finalement la défaite finale de 1980 qui est presque un symbole quoi de la grève de la Fiat. Est-ce que pour terminer l'émission parce qu'on va finir dans quelques minutes, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était finalement la bon même si c'est parce que c'est quelque chose d'important. La vision, du coup, bon, peut-être dans un groupe, dans un nombre de groupes minoritaires, mais et en quelques minutes, de la vision d'une espèce de communisme sans travail, parce que je vais citer encore une fois quelque chose qui est dans Autonomie de Marcello Tari, un éditorial du supplément numéro 15 de Rosso en mai 75, qui dit « Le communisme n'est pas la lutte pour un autre travail, il est lutte pour l'abolition du travail ». Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être un peu détailler en 5 minutes, du coup, comment est-ce qu'on envisageait, peut-être de manière un petit peu utopistique, voilà, un communisme sans travail?
Oui. Je vais dire, toujours dans ces scrupules que je ne prends pas comme une vertu, mais à la limite c'est un peu une obsession de véridicité. Il faut dire qu'à l'époque, chez, disons, nous tous, mais déjà depuis classe opéraille et puis potere opéraille, je prends aussi les figures des théoriciens, il y avait une certaine résistance, on pourrait dire, pour être malveillant, parce que vous ne savez pas quoi dire, à rentrer dans une espèce de préfiguration. De, comme ici en France, on te dit toujours, mais même chez les gauchistes, chez les alternatives, projet des sociétés. On s'est contenté plutôt de revenir souvent, c'est un peu de dada quand tu le répètes, mais c'est normal, à la phrase de Marx, le communisme n'est pas un régime, n'est pas un projet d'organisation de la société, nous appelons communisme le mouvement réel qui détruit, dépasse, abolit, aufheben, c'est un terme allemand très complexe, sur lequel Hegel a écrit des pages pour dire comment il est dense et complexe, l'état des choses actuelles.
Oui, donc du coup, ce qui fait que dans cette vision-là, presque on va dire le dépassement communiste du travail, c'était pas quelque chose qui était dans une espèce de projection utopique et uchronique, mais beaucoup plus aussi une forme de rapports sociaux qui pouvait émerger déjà en fait ici ouais. Et maintenant dans le mouvement lui-même, et donc finalement le dépassement du travail d'une certaine dépassement communiste du travail était déjà dans des formes de rapports sociaux qui entre camarades, qui étaient plus disons médiés par la marchandise ou par le travail, comme même les rapports syndicalistes tout ça, la camaraderie d'usine, ça reste globalement lié par ça, mais médiés par quelque chose d'autre qui est la lutte.
Et c'est à l'époque, tu sais, parfois les slogans souvent peuvent être très heureux, mais ils peuvent être aussi la mort de la théorie, non? Bon, donc ils ont des limites. Mais quand même, nous utilisions beaucoup maturité du communisme, actualité du communisme. Communisme versus socialisme. Le socialisme étant conçu comme le socialisme du capital, dans les formes les plus différentes, et dans le socialisme d'État réel, etc. Donc, et à un certain moment, on avait même contagié les gens du manifesto, Lucio Magri, etc., sous cette formule maturité du communisme. Ou alors, toujours Ferruccio Gambino qui avait écrit un titre qui nous avait plu beaucoup, le communisme comme programme minimum, pour se moquer un peu de l'histoire de la transition. Mais c'est vrai que si on nous demandait, pour ne pas faire des discours tellement vertigineusement théoricisants que les gens n'arrivent pas à les visualiser, donc ça signifiait, autant que pour l'insurrection, entendu comme insurrectionnalité, qualité insurrectionnelle, et pas comme les moments de l'insurrection en général, et communisme aurait été, bah, peut-être quelqu'un pourrait dire qu'il peut se rassembler à l'idée de communisation qui a émergé.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher.
Radio primitive.
La radio libre et associative.
From Crew.